Chapitre 2. Avec le chapitre 1 à partir du verset 3, ce chapitre fait un tout caractérisé par l'expression « Ainsi dit l'Éternel ». Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Moab et à cause de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'il a brûlé, réduit en chaux, les eaux du roi d'Édom. Et j'enverrai un feu sur Moab, et il dévorera les palais de Kérijot, et Moab mourra au milieu du tumulte, au milieu des cris, au son de la trompette, et je retrancherai le juge du milieu de lui, et je tuerai tous ses princes avec lui, dit l'Éternel. Versets 1 à 3. Le caractère de Moab tranche sur ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous nous trouvons en présence d'un nouveau principe. Ce n'est pas seulement que le gouvernement de Dieu enregistre scrupuleusement le tort fait à son peuple coupable, par les nations, devenus ses instruments pour le châtier, mais il enregistre aussi les torts commis par ces nations elles-mêmes entre elles. Rempli d'un désir de vengeance insatiable qui s'assouvit même sur les morts, Moab a violé la sépulture du roi d'Édom. Nous ne savons à quelle occasion, mais il méprisait par là l'autorité établie de Dieu, quelque coupable qu'elle pût être. Violer les sépultures, en sortir les ossements, les brûler, était un acte de vengeance n'appartenant qu'à Dieu seul. Dans le cas de Josias, cet acte avait pour but de souiller les autels des faux dieux, de Rois 23, versets 15 à 17, mais il n'appartenait point aux hommes de prendre cette mesure, sauf pour obéir à Dieu. Un homme souillé avait-il le droit de juger les morts d'autres hommes souillés comme lui? On a voulu voir cet acte dans le récit un peu énigmatique qui nous est fait en 2 Rois 23, versets 15 à 17. Nous ne le pensons pas, et nous voyons plutôt dans le fait relaté ici une vengeance furieuse de Moab contre Édom, qu'il avait jadis envahi et humilié, vengeance postérieure au récit de 2 Rois 3, et qui, ne pouvant s'exercer sur le roi vivant, s'assouvit en violant son sépulcre. Le fait rapporté dans notre passage est d'une grande importance morale quant aux voies du gouvernement de Dieu. Alors même qu'il s'agit d'Édom, dont la fureur contre le peuple de Dieu et contre Dieu lui-même était sans borne, Dieu punit toute infraction aux règles qu'il a établies, toute atteinte même après la mort à l'autorité qu'il a instituée. Il en sera de même devant le trône du jugement, mais souvent une iniquité pareille trouve sa rétribution ici-bas. Dieu n'oublie rien. Quelle description de l'anéantissement de Moab au milieu du tumulte de la bataille. Avec le juge, tous ses princes sont tués. Pourtant, à la fin des jours, Moab, comme les fils d'Ammon, verra ses captifs rétablis. Jérémie 48, verset 17 et 49, verset 6. Tandis que rien de pareil ne nous est dit d'Édom. Jérémie 49, verset 7 à 22. Par qui eut lieu le jugement de Moab? On voit en Ézéchiel 25, versets 8 à 11, que ce fut par les fils de l'Orient. En Ésaïe 15 et 16, le sort de Moab est annoncé comme tout prochain. Dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire. Verset 14. Cette prophétie peut avoir été prononcée sous Osias ou Ézéchias. En Jérémie, la destruction de Moab s'accomplit par le dévastateur qui semble être Nebuchadnezzar. Mais Ésaïe 25, verset 10 nous apprend que le jugement de Moab sera consommé lorsque ce peuple ayant été reconstitué à la fin des temps, le Seigneur établira son règne et que la mort sera engloutie en victoire. De même, en Sophonie 2, verset 10 et 11, le résidu prophétique d'Israël pille Moab. On voit encore en Daniel 11, verset 41, qu'Édom, Moab et les fils d'Ammon échappent de la main de l'Assyrien futur, car ils n'avaient pas été préservés de l'Assyrien historique ou plutôt de Babylone, et sont comme mis à part et réservés pour un jugement spécial à la fin des temps. Remarquons encore que, plus la relation de ces nations avec le peuple de Dieu était étroite, plus le jugement qui tombe sur elles est sévère. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Juda et à cause de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses statuts, et que leurs mensonges, après lesquels leurs pères ont marché, les ont fait errer. Et j'enverrai un feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Versets 4 et 5. Si Dieu n'abandonne jamais ses promesses, il ne révoque jamais non plus son arrêt, bien moins encore quand il s'agit de son peuple et non de ceux qui l'oppriment. Vis-à-vis des nations, il est l'avocat de son peuple et prend en main sa cause, mais à l'égard des siens, son jugement est d'autant plus sévère que leur proximité de Dieu a été plus grande. La sévérité de ce jugement se montre en ce que Dieu assimile complètement Israël aux nations, objet de son châtiment irrévocable. Les trois et quatre transgressions sont aussi comptées à Juda. Dieu ne lui donne, chose importante à remarquer, qu'une seule raison de son jugement, ses rapports avec l'Éternel. Il punit les nations selon leur conduite envers son peuple. Il punit son peuple selon sa conduite envers lui. Tout est contenu dans cette simple question. Avait-il honoré ou méprisé la parole de Dieu? Avait-il gardé ses préceptes? La discipline de Dieu envers nous sur la terre, car il s'agit du gouvernement de Dieu et non du jugement éternel, dépend avant tout de l'influence que la parole exerce sur notre vie et notre conduite. La négliger nous assimile au monde. Pensons-nous assez que l'observation de sa parole, Apocalypse 3, verset 8, nous acquiert l'approbation du Seigneur et que le mépris de sa loi nous fait encourir son jugement? En quoi l'avait-il méprisé? En ce qu'au lieu de garder les statuts de l'Éternel, ils avaient suivi les mensonges idolâtres après lesquels leur père avait marché. Du moment que nous négligeons la parole de Dieu, il se fait un vide dans notre cœur, et le monde ne tarde pas à le combler. Au verset 6 à 16, Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, a part, comme Juda, au jugement des nations. Nous l'avons dit, les 10 tribus forment le sujet spécial de la prophétie d'Amos. Aussi, les causes de leur châtiment sont-elles beaucoup plus détaillées que pour Juda. L'arrêt prononcé sur Israël est tout aussi inexorable que les autres. Dieu avait enregistré toutes les transgressions d'Éphraïm. Sa conduite était déterminée par une basse cupidité qui s'attaquait aux justes, aux pauvres, aux chétifs, aux débonnaires, à ceux sur lesquels repose en tout temps le bon plaisir de Dieu, à ceux qu'il avait envoyés sans défense dans ce monde, comme des agneaux au milieu des loups, à ceux enfin que le Seigneur déclare bienheureux, car ils hériteront de la terre sur laquelle la méchanceté des hommes ne leur accorde aucune place. Si l'état de Juda est le mépris de la parole, celui d'Israël peut se résumer en un mot, l'absence de crainte de Dieu. Ils avaient vendu le juste pour de l'argent. Plus tard, Juda suivit le même chemin en livrant, pour 30 pièces d'argent, le juste par excellence entre les mains des hommes. Et le pauvre pour une paire de sandales, objet commun et sans valeur qu'on se procurerait même sans bourse déliée. C'est ainsi qu'ils estimaient ceux que Dieu prisait au-dessus de tout. Eux qui désiraient ardemment de voir la poussière de la terre sur la tête des chétifs. Ils aspiraient à voir les misérables dans le deuil pour que, dénués de tout, ils devinssent leur proie et qu'ils en profitassent pour les réduire en esclavage. Et qui pervertissent le chemin des débonnaires. Les débonnaires joignent la douceur à la bonté dans leur rapport avec les hommes. Le Seigneur était débonnaire et humble de cœur. Il communique son caractère à ses bien-aimés qui, par la connaissance de Christ, sont capables de reproduire ses traits. Pervertir leur chemin, c'est les accuser d'être en contradiction dans leur conduite avec leur profession afin de les arrêter dans le chemin qu'ils désirent suivre à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes. Ces accusations dénotent toujours une haine cachée contre Christ, dont les siens, au milieu de beaucoup de faiblesses et d'infirmités avouées, cherchent à reproduire le caractère. Les tendances hostiles du cœur des hommes ne se montrent pas toujours à nu et se déguisent souvent de manière à tromper tout le monde sur les vrais ressorts de leur conduite, occupés tout entière aux soins de leurs propres intérêts. Tôt ou tard, cependant, les gains retirés par eux en prenant en gage le bien du pauvre et en mettant à l'amende le prochain, verset 8, engendrent la corruption et servent à alimenter les mœurs les plus éhontées. Même le respect dû à la famille, la crainte que les parents doivent inspirer à leurs enfants, sont oubliés pour assouvir les plus basses convoitises. Verset 7. Dans cet état composé de lucre, de corruption, de mépris du vrai peuple de Dieu, ces hommes s'étendent à côté de chaque autel. Car la religion qu'ils professent n'est pas celle du vrai, du seul autel de Dieu, mais une religion n'ayant de la vraie que l'apparence. Un tel tableau ne diffère pas moralement de celui du monde chrétien. Cependant, que n'avait pas fait l'Éternel pour ce peuple? L'histoire passée d'Israël prouvait l'intérêt que Dieu lui portait. Il avait exterminé les Cananéens devant lui, avait anéanti la puissance de Satan, s'opposant à ce qu'il possédât le pays de la promesse. Malgré leur taille aussi haute que les cèdres orgueilleux, malgré leur puissance aussi forte que les chênes, ils n'avaient pu tenir tête à Israël. Ils avaient été exterminés, racines et fruits. Verset 9. Et ne valaient pas mieux qu'un tronc d'arbre desséché destiné au feu. Et moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai fait marcher dans le désert 40 ans pour posséder le pays de l'Amoréen. Verset 10. Dieu leur rappelle ici comment il leur avait finalement procuré la victoire en accomplissant à leur égard l'œuvre du salut. Cette œuvre consiste en deux facteurs indispensables. Premièrement, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. C'est la rédemption qui nous délivre du monde et de l'esclavage de Satan. Deuxièmement, je vous ai fait marcher dans le désert 40 ans. C'est la discipline sans laquelle nous ne pourrions atteindre notre Canaan céleste. Sans doute la rédemption est suffisante pour donner aux croyants l'accès immédiat du paradis, mais, comme racheté, il est ici-bas l'objet d'une action continuelle de la parole pour le purifier et le sanctifier, car, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Ainsi, en Éphésiens 5, le Seigneur s'est livré lui-même pour l'assemblée, notre rédemption étant le fruit de son amour pour nous. Puis il sanctifie l'assemblée en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, car il veut se la présenter n'ayant ni tache, ni ride, sainte et irréprochable dans la gloire. C'est là ce qu'Antipe Israël aurait dû connaître, mais, devant tant de grâce et de soins, il avait abandonné Dieu et sa loi. Cependant, la patience de l'Éternel envers eux ne s'était pas lassée. Il leur avait suscité des prophètes d'entre leurs fils et d'entre leurs jeunes gens des Nazaréens. Des prophètes porteurs de sa parole pour les ramener par la repentance au Dieu dont ils s'étaient détournés et les rendre attentifs à ses jugements et à ses miséricordes. Des Nazaréens dont l'exemple prêchait l'abstention des souillures du monde, le refus de tout ce qui produit l'ivresse, en satisfaisant les convoitises de la chair, en un mot, une vie sanctifiée. Mais, dit l'Éternel, vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et vous avez commandé aux prophètes disant, ne prophétisez pas. Eux, les ivrognes d'Éphraïm, avaient écarté le témoignage gênant des Nazaréens en les obligeant à faire comme eux. Ils avaient imposé silence aux prophètes. Par inimitié contre Dieu, ils avaient séduit ou opprimé ses serviteurs. Cette absence de toute crainte de Dieu est la cause d'un jugement sur Israël, comparé, verset 13, à un char chargé de gerbes au jour de la moisson, qui passe, ébranlant le sol sous le poids des essieux. Quand la récolte sera engrangée, eux seront foulés sous les roues. Image saisissante du jugement qui allait atteindre Israël et dont le tremblement de terre annoncé par Amos devait être l'avant-coureur. Les versets 14 à 16 montrent l'impossibilité d'échapper à ce cataclysme. Force pour résister au jugement prochain, puissance pour le vaincre, armes pour le combattre, agilité pour lui échapper, courage pour l'affronter, tout manquera à l'homme en ce jour-là. Devenu la proie du jugement, il s'enfuira tout nu devant Dieu. Tel est l'irrévocable arrêt contre les 10 tribus. Moins de 100 ans après, il fut exécuté.